La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Heureux de vous retrouver pour nos débats consacrés à l'actualité nationale. Trois invités comme d'habitude pour cette émission. Je salue le retour de Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, et de Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, soutien du Nouveau Front Populaire. Et je salue la première à la mêlée de Pierre Lafond, responsable départemental des jeunes du parti Les Républicains en Haute-Garonne, conseiller municipal de Pechbonnieu. Bienvenue à tous les trois, merci d'être au rendez-vous. Nous allons d'abord nous intéresser à ce qui se passe ces jours-ci à l'Assemblée nationale, où depuis lundi, les députés examinent la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic, un texte né des travaux d'une commission d'enquête du Sénat, menée par le socialiste Jérôme Durain et le LR Étienne Blanc. Leur proposition vise à réorganiser et faciliter le travail des enquêteurs dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Elle a déjà été votée à l'unanimité au Sénat le 4 février dernier. Après avoir pris connaissance du texte et des mesures qu'il préconise, est-ce que vous considérez que cette loi pourrait être efficace pour lutter contre le narcotrafic tel qu'il est implanté aujourd'hui dans notre pays? Je pose d'abord la question à Guillaume Agulot.
Bonsoir et merci pour votre invitation. Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites et dans les questions que vous posez. La première des choses qu'il faut noter, c'est effectivement d'abord un vote à l'unanimité au Sénat. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi, dans la part de notre représentation nationale, la prise de conscience d'un sujet majeur avec lequel il faut arrêter, peut-être avec les demi-mesures. Parce que des demi-mesures pour lutter contre le trafic de drogue, le narcotrafic, quel que soit le terme qu'on lui donne, etc., ça fait des années qu'on empile des textes réglementaires, législatifs, des circulaires relatives à la surveillance, etc., etc. Et on voit non seulement qu'ils échouent, qu'ils n'ont pas donné les effets, mais qu'en plus, en réalité, ils ont peut-être même contribué par une mauvaise appréciation, par une mauvaise application, à mettre en danger la vie des personnels pénitentiaires. Et j'en veux pour exemple la dernière évasion spectaculaire de ce narcotrafiquant il y a un peu plus d'un an, à Arras, dont on sait qu'ensuite il a un peu grenouillé à droite à gauche dans le nord du département avant une fuite un peu rocambolesque jusqu'en Roumanie où il a été rattrapé. Lors de cette évasion, il y a 3 morts. Parmi les personnels de l'administration pénitentiaire, il y a 3 morts. Donc on est véritablement sur une guerre à mener, ou plus exactement une guerre à répondre, parce que la guerre a été déclarée très clairement. Aujourd'hui, les narcotrafiquants ne sont plus des délinquants, ils sont devenus des criminels. On va être très très clair, je ne parle pas, sans les excuser bien évidemment, mais je fais encore quand même évidemment la distinction des, on va dire, des trafics de substances qui existent, et on le sait un petit peu partout à droite à gauche, et qui sont malheureusement un fléau, un vrai fléau, mais aussi une incapacité sociale à poser des solutions pérennes dans certains territoires. C'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre, ça veut dire que ça, c'est un fait. Non, là, on parle de tout à fait autre chose. On parle de millions d'euros qui sont brassés, on parle d'armes de guerre qui sont utilisées, on parle de personnes qui n'hésitent pas à tuer. Donc, il faut d'abord un premier électrochoc, j'allais dire, de réponse. Et c'est peut-être ça aussi le sens de ce vote à l'unanimité, au niveau du Sénat. Alors, cette mesure, qu'est-ce qu'elle dit? Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Moi, est-ce que votre question, c'était de savoir est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Moi, j'allais dire presque, j'attends de voir. Parce que je me demande si les moyens seront en adéquation par rapport aux ambitions proposées par ce texte.
Et aux mesures qui sont préconisées.
Et voilà. Au niveau des ambitions, c'est très louable, honnêtement. C'est-à-dire, y compris parce que ça prend la mesure. Ça, oui, premièrement. Au niveau des moyens, c'est un petit peu autre chose. On va pas se mentir, hein. Le travail pour la lutte contre le narcotrafic, ça veut dire commencer à récupérer d'abord des petites prises, des indices, des passeurs, etc., des mules, etc., et remonter progressivement. Ça nécessite un travail d'enquête. Aujourd'hui, en quel état est l'enquête, les enquêteurs, les métiers d'enquêteurs de la police nationale? C'est catastrophique, c'est calamiteux. Et donc on pourra faire tous les textes que l'on veut. Ces textes ne s'appliqueront qu'à ceux qu'on va réussir à attraper. Il vaut toujours mieux ça. Quelle est la fraction parmi ceux qui sont vraiment dans ce narcotrafic que nous attrapons? Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à ça. Si ce texte... On viendra après au contenu du texte. Il y a des mesures, moi, qui me gênent aux entonnoirs.
Oui, bien sûr, peut-être il faut qu'on parle du détail.
Mais déjà, sur le principe, ce texte, pour moi, va dans le bon sens parce qu'il pose la mesure que nous avons changé d'échelle, nous avons changé de braquet, pour reprendre une expression qui est souvent utilisée, et qu'il est temps d'en prendre conscience collectivement. Vous l'avez dit, hein, c'est un projet de loi qui a été porté par un PS et un LR. Donc on est transpartisan, ce qui veut dire, et c'est très bien, la représentation de la nation, elle sert aussi à ça.
Si ça a été voté à l'unanimité au Sénat,
ça le dit bien.
Ça transcende effectivement les clivages
également.
Entre partis.
Moi j'ai peur que ce texte-là aille dans la bonne direction, certes, mais n'ait pas les moyens de ses ambitions. Parce que c'est plus un train de retard qu'on a aujourd'hui sur le narcotrafic. C'est vraiment toute une série de mesures. Et nous, on est encore dans des... Si je reprends l'allégorie du train, eux, ils sont sur des TGV et nous, on continue sur des petits trains de marchandises un peu poussifs dans des voies secondaires. Et là, je pense qu'il faut un véritable choc. Avec quels moyens ?
Thibaut Casal, votre avis sur les questions, sur la question principale que j'ai posée, sur l'efficacité de cette proposition, de ce texte de loi, si toutefois il est voté, bien entendu.
Oui. Bah, cette proposition de loi, bah déjà, il faut en saluer les bons points, comme Guillaume l'a dit, notamment le fait que ce soit une proposition transpartisane. Ça, c'est très important parce qu'on est sur un débat qui dépasse les postures idéologiques, même si... quand on va aller dans le détail quand même de certaines mesures, on y retrouve quand même une certaine idéologie dans certains points. Mais il faut le saluer. Il faut saluer le vote au Sénat à l'unanimité, malgré le fait que notamment des sénateurs écologistes ont bien pointé hein, quelques problèmes, mais l'ont voté. L'ont voté pour bien montrer quand même que il faut maintenant à tout prix lutter contre le narcotrafic. Moi, j'ai un peu cette impression. En France, c'est comme si on avait arrêté la lutte contre le trafic de drogue après la French Connection. En fait, on a l'impression que depuis, on en parle, mais on se rend pas compte à quel point aujourd'hui le trafic de drogue dépasse même ce qui pouvait être à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, même quand on va dans des préfectures de petits départements ruraux, etc., et tout, le trafic de drogue est très présent. Moi, j'en veux pour exemple quand tous les étés je vais travailler à Rocamadour, mais le nombre de drogues qui circulent dans la cité religieuse médiévale de Rocamadour, c'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. Oui, il faut à tout prix lutter là-dessus, mais comme on l'a dit, il faut se donner les moyens. Et donc les moyens, là encore, on se pose une question de comment lutter là-dessus, avec quel argent. Dans les mauvais points, je pense aussi que on oublie dans cette proposition de loi beaucoup de choses au niveau de la prévention. On oublie beaucoup de choses au niveau de la santé, parce que parler du trafic de drogue et ne pas parler vraiment aussi de santé, c'est un vrai problème. Je pense que, comme souvent, on est beaucoup plus dans la recherche du punitif et on oublie peut-être certaines choses à côté qui pourraient être très intéressantes pour lutter contre le narcotrafic. Et parler aussi du trafic de drogue aujourd'hui et mettre sous le tapis la question de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis, ça pose aussi une question. La légalisation du cannabis, comme elle est au Canada ou dans certains États américains, a porté ses fruits sur cette question-là et aussi a rapporté de l'argent. De l'argent qui pourrait, par exemple, être investi dans la lutte contre le trafic de drogue. Donc, bon, je pense que j'aurai le temps peut-être de développer ça aussi plus tard, mais il y a des bonnes idées, on a envie de bien faire, mais encore une fois, bon, faut voir quels moyens on met, comment. Donc je reste quand même assez dubitatif et je ne pense pas, et malheureusement, hein, je ne pense pas que cette loi va régler le problème. Et je dis malheureusement parce que si c'était le cas, ce serait fantastique, mais malheureusement, je ne pense pas.
Bon, là-dessus, tout le monde sera d'accord. En tout cas, on va rentrer dans le détail de la loi, pour certaines mesures en tout cas, tout à l'heure. Pierre Lafond, votre avis.
Bonsoir, déjà je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je rejoins globalement mes collègues ici présents sur le constat. Déjà peut-être une petite analyse politique de la situation. Je trouve ça très bien cette prise de conscience qui fait quasiment l'unanimité sur la classe politique, à l'exception de LFI malheureusement, qui à l'Assemblée nationale va sur la voie de la bordélisation. Et c'est curieux d'ailleurs de voir qu'il y a parmi eux des députés drogués sur le sujet des stupéfiants. En tout cas au Sénat, cette unanimité est très bien, cette prise de conscience à gauche très bien. Bruno Retailleau est un ministre à la hauteur. Après, le contenu de cette loi, effectivement, à voir. On pense aussi, les lois immigration, il y en a eu 30 pour pas grand-chose à l'arrivée. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a un immense problème. Il y a un constat, les solutions à voir. Il y a quelques idées qui sont pas mal. Par exemple, une qui m'a marqué, qui contraste avec avant sur les repentis. Je trouve ça très intéressant, même philosophiquement, de négocier des réductions de peine pour ces repentis. Voilà, donc aujourd'hui, les homicides, c'est à peu près 50%. Les homicides dans le trafic de drogue, c'est 50% de l'ensemble. Ce sont des statistiques effrayantes. Depuis quelques années, même, on prend en compte dans le PIB le trafic de drogue, parce que ça se compte en pourcentage. Donc, une loi qui va dans le bon sens, évidemment. Maintenant, ce serait regret, enfin, ce serait pas responsable de s'aventurer sur est-ce que cette loi sera efficace ou pas. Espérons-le, en tout cas.
Alors, on va regarder peut-être certaines mesures. Est-ce que, parmi toutes celles que réunit ce projet de loi, je dis bien c'est un projet pour l'instant, il y en a qui vous semblent aller à l'évidence dans le bon sens et d'autres dont vous pensez que les résultats seront très douteux, en tout cas qui restent à démontrer. Guillaume Agulot.
Bon, c'est une loi qui est quand même globalement marquée après son passage en commission des lois, que ce soit au Sénat et maintenant actuellement aussi à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui est marquée par ce qu'est aujourd'hui la tonalité générale de la représentation nationale, de l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est une loi qui s'est un petit peu penchée à droite, on va dire, après ses passages en différentes commissions. Et qui a rajouté des éléments, ou en tout cas qui a durci, qui a renforcé des éléments qui, moi, déjà sur le principe, m'étonnaient un peu et qui me font un petit peu peur. Déjà, le premièrement, Bruno Retailleau, vous me dites, il est à la hauteur. Moi, je suis quand même très étonné quand je l'entends sur ce projet de loi, de dire « Non, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Le Conseil d'État a dit que c'était bon. » Il faudra juste rappeler à Monsieur Retailleau, parce qu'apparemment, il a oublié, que la structure qui est chargée de valider la l'égalité des lois, c'est pas le Conseil d'État. C'est le Conseil constitutionnel. Et qu'on va juste attendre, hein. On ne sait pas encore ce qui est voté, vous l'avez rappelé, c'est un projet. On va juste attendre que le Conseil constitutionnel, si jamais la loi est votée en l'état, ce qu'il va en dire, et notamment, par exemple, sur ces mesures de rétention arbitraire de liberté, qui, je crois que le collègue de M. Retailleau, qui parfois d'ailleurs oublie qu'il a changé de ministère, c'est assez étonnant quand on l'entend, il faudra lui dire que c'est plus tout à fait le même, même s'il passe son temps à dire « je ne le suis plus », mais on sent bien qu'il aimerait bien encore un petit peu l'être, mais bon, peu importe. En tout cas, le ministre de la Justice, M. Darmanin, est revenu déjà quand même sur une première mesure. Je rappelle juste que les rétentions administratives provisoires, c'était dans le premier projet de loi 4 ans renouvelable. Waouh. On est revenu dans le projet actuel pour une raison simple. Il savait parfaitement que ça, c'est une mesure qui allait se faire exploser, fracasser. Il n'y a pas d'autre mot. On est revenu à 2 ans renouvelable sous condition. Alors, la réponse de M. Retailleau et de M. Darmanin, c'est de dire « Oui, mais vous comprenez ?» C'est le délai dont nous avons besoin tous ces temps provisoires parce que aujourd'hui les tribunaux sont engorgés. C'est un fait. Hein, oui. Est-ce que c'est la faute des justiciables? Est-ce que c'est la responsabilité? Est-ce que c'est aux justiciables d'en subir les conséquences? Imaginez, ça peut arriver. Les périmètres et les contours sont quand même assez vastes de cette loi. Il serait bien qu'on remette aussi un petit peu plus de clarté pour savoir qui sera visé par ce texte, je le rappelle, spécifique. Encore une fois, ce texte n'est pas là pour viser tous les trafiquants de drogue. On est logiquement sur des questions de seuil, on est sur des questions d'ampleur, on est sur des questions d'amplitude. Donc déjà, ça c'est le premier point. Cette rétention arbitraire, administrative, c'est-à-dire arbitraire, pour le dire en français, là quand même, c'est un peu... Je comprends pas que ça chatouille d'ailleurs pas un petit peu plus d'autres partis qui se prétendent démocrates, républicains. On est quand même là sur des logiques qui sont un petit peu effrayantes. Il y en a une autre, hein. C'était le dossier coffre.
Alors, il faut qu'on explique ce que c'est.
Alors, le dossier coffre, c'est-à-dire le fait prévu dans cette législation qu'une partie, une fraction de la procédure ne soit pas accessible à la défense. Pour protéger des sources, nous a-t-on dit, etc. etc. Et nous a-t-on dit, c'est une demande des magistrats instructeurs. C'est à leur demande, et donc on leur fait plaisir, hein, je traduis. Je demande à voir quels sont les magistrats instructeurs qui ont dit « Nous acceptons que la défense n'ait pas, sur un sujet judiciaire, les mêmes droits que l'accusation. » Parce que ça voudrait dire que, très concrètement, tout autant de la procédure, et aussi librement qu'il le souhaite, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire instructeurs, les procureurs pourraient avoir accès à une fraction du dossier d'instruction sans même que la défense ne sache ce qu'il y a à l'intérieur de ça et ne sache à quelle ampleur, etc. Ça, au niveau du droit, que le Conseil d'État dise « oui, oui, ça passe », bon, je l'entends, je sais pas trop. Le Conseil constitutionnel, là, c'est même pas... D'ailleurs, j'ai cru comprendre, lors des dernières discussions, que cette partie-là avait été consciencieusement elle-même mise dans un coffre. Bon, ça, c'est... peut-être que la raison aussi, à un moment donné, revient, etc. Il y a une mesure que moi, par contre, je trouve utile. Bonne, je sais pas. Dure, certainement. Utile, c'est le regroupement des principaux. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire la liste, etc. Mais c'est le regroupement des principaux narcotrafiquants,
les plus dangereux,
dans un isolement très strict.
Bah, les quartiers de haute sécurité.
Des quartiers de haute sécurité, vraiment un isolement très, très strict. Pourquoi je pense, moi, que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va inaugurer dans la lutte contre le narcotrafic. C'est quelque chose qui a été mis en place dans la lutte contre la radicalisation, oui. Et notamment avec les principaux radicalisés, les condamnés d'actes, soit ici, soit de retour des zones djihadistes de guerre. Et c'est quelque chose, surtout, ces mesures-là, qui donnent des résultats. Alors, pas sur la réinsertion, parce qu'on m'a expliqué que si on les met en permanence dans une cellule, voilà, ils ne vont pas pouvoir se réinsérer. Honnêtement, pense que M. Mohamed Amra est réinsérable? Qui? Qui croit ça? À un moment donné, il va falloir arrêter de se jouer de la flûte. Ça suffit. Non. En revanche, il y a une chose qui est intéressante, c'est que si Mohamed Amra n'est pas en contact avec d'autres détenus, présents dans ses cellules, dans ses prisons, dans ses territoires, dans ses quartiers, etc., pour d'autres motifs, fût-ce de trafic de drogue, mais à un autre niveau, mais ça veut dire que ce n'est pas des personnes sur lesquelles il peut avoir, d'une manière ou d'une autre, une emprise. Et c'est ça qu'on a réussi avec la lutte contre la radicalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas déradicalisé les personnes qui venaient de ces zones de guerre, les principaux, etc., les condamnés pour les attentats Charlie Hebdo, etc. On ne les a pas déradicalisés. On a empêché qu'ils en radicalisent d'autres.
Oui, ce qui est déjà beaucoup. Thibaut Casal, vous, qu'est-ce que vous relevez dans cette loi qui vous semble être des mesures vraiment qui... ils vont dans le bon sens et qui, selon vous, iront dans le bon sens une fois qu'elles seront mises en place? Quelles sont celles sur lesquelles vous avez des réserves ou voire vous êtes carrément contre?
Du coup, oui, on va commencer par le positif, on va dire. Donc, dans ce projet de loi, il y a notamment pas mal de choses sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose où souvent on a eu beaucoup de mal à s'attaquer à ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de très, très complexe, mais qu'il faut vraiment là mettre sur la table et sur lesquels il faut lutter de façon prioritaire. Et aussi, et vous l'avez rappelé, cette question du statut des repentis. Parce que si la mafia italo-américaine, la Cosa Nostra en Sicile, etc., est tombée, c'est parce qu'il y a eu justement des repentis, comme Tommaso Buscetta, etc.
Un modèle un peu de la loi italienne contre la mafia.
Mais sans le repenti Tommaso Buscetta, il n'y aurait pas eu le maxi procès avec ces centaines de mafieux sous les verrous, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et si on veut lutter efficacement contre le trafic de drogue, et surtout si on veut faire tomber les gros, parce que les gros, s'il n'y a pas de repentis, ils ne tombent pas. Parce qu'ils commandent d'une façon où ils ne peuvent pas tomber s'il n'y a pas des repentis. Donc là, il faut que la France soit au niveau, là où les États-Unis font ça depuis des années, sont au niveau, l'Italie du coup fait ça depuis les années 80 et au niveau, etc. Et là où nous, encore une fois, on est peut-être encore un peu en retard. Alors, sur les choses qui vont pas, je vais reprendre des choses qui ont été dites, hein, mais cette idée du coffre là où la défense n'aurait pas accès à une partie du dossier, etc. Mais enfin, on est vraiment dans la continuité de l'attaque envers l'état de droit que M. Retailleau mène depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Il s'en cache d'ailleurs à moitié. Hein. Moi je trouve ça très problématique, quoi. La défense, elle ne peut pas ne pas avoir les mêmes droits que l'accusation, sinon on sort vraiment de tout ce qui fait notre justice, quoi. Donc c'est pas parce que la peine est en rapport avec le narcotrafic que cela doit être ainsi. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire la même chose du coup pour les terroristes, on fait la même chose pour les tueurs en série, parce que après c'est comme tout, hein. Une fois qu'on ouvre une brèche, après ça va aller dans tous les sens, et on sait comment ça se passe à ce niveau-là. Mais là, par contre, où je serais pas forcément d'accord, c'est sur le retour des QHS, quoi. Parce que moi, les quartiers de haute sécurité, ben moi, ça me fait penser justement, voilà, à ce qui existait à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing et qui a pris fin en 1982 lorsque Robert Badinter a mis fin à ces quartiers de haute sécurité, parce que ben on s'est bien rendu compte quand même de l'inefficacité de ces quartiers de haute sécurité, et on voyait quand même des grands gangsters comme Mesrine, François Besse, etc., qui passaient par là et qui au final ça ne changeait rien. Et faut aussi peut-être alerter ce que font pas mal d'associations sur cette question de fabrique à fous, en les isolant de cette façon-là. Donc moi, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Et d'autant que le parallèle avec les personnes, avec les islamistes radicalisés, on n'est pas sur les mêmes peines. Il y a quand même des choses un peu différentes.
Le point que relevait Guillaume Agulot sur le fait que ça pourrait éviter, entre guillemets, de contaminer d'autres délinquants de moindre envergure, alors, le fait de ne pas les mettre avec des têtes de pont comme Ahmed Amra ou d'autres.
Alors après à voir dans quelles conditions et avec qui on peut les placer. Mais je pense que seulement de les isoler, moi je pense pas que ça règle le problème.
Symbolique.
Ça règle pas le problème, et cette question des fabriques à fous, c'est quand même très intéressant, parce que quelqu'un qui va purger 15 ans, 20 ans pour trafic de drogue, quand il sort et qu'il a été isolé, totalement isolé comme ça, quand il ressort, c'est peut-être pas que déjà la violence du trafic de drogue, quoi, mais quand il ressort, moi je pense pas que ce soit quelqu'un, là pour le coup, qui puisse être réinséré, quoi. Même si oui, je suis d'accord que pour l'exemple pris, je pense pas que malheureusement s'il sort de prison, il va se mettre à devenir boulanger, mais c'est pas pour autant qu'à mon avis, il faut les mettre dans une situation où leur santé mentale sera elle aussi en danger.
Alors, après ces deux premières interventions sur cette seconde question, vous, Pierre Lafond, qu'est-ce que vous avez relevé dans cette loi qui vous semble absolument positif et qu'il faut mettre en place, et qu'est-ce qui vous semble un peu plus douteux en termes de résultats qu'on peut en escompter?
On n'a pas encore cité par exemple le parquet anti-stup, donc c'est une nouvelle idée, pourquoi pas, qui est une forme de spécialisation sur le sujet. Qui peut être intéressante. Après, le dossier coffre, je crois que c'est une idée audacieuse qui mérite d'être approfondie, parce que finalement, c'est le prolongement du principe de l'enquête. La police, puis la justice, est censée garder un coup d'avance sur les personnes accusées. Et si elles n'ont rien à se reprocher, elles ne seront pas condamnées. Après, évidemment, l'état de droit, respect de... du principe, les voyous sont condamnés, les innocents sont relaxés, tout à fait. J'aimerais aussi revenir sur l'aspect, le risque pour le Conseil, au niveau du Conseil constitutionnel. Bruno Retailleau a déjà dit qu'il était totalement favorable à l'état de droit, mais cet état de droit doit être modifié si nécessaire. Si le Conseil constitutionnel, à 9 personnes, arrive à s'opposer à 1000 parlementaires et une majorité écrasante du peuple qui soutient cette loi, ça montrera qu'il faudra une rupture politique par l'élection présidentielle prochainement, dont on peut espérer qu'elle changera ses règles, et au niveau le Conseil constitutionnel ne peut pas rester comme ça, cet empire qui empêche tout mouvement idéologique. Et ça, c'est un vrai problème. Après, au niveau de... On n'a pas parlé aussi des comparaisons internationales à ça. La question des stupes. En Amérique latine, il y a les deux extrêmes actuellement. Il y a les pays plutôt communistes, assez largués sur le sujet, finalement. Et le Salvador, à l'extrême opposé, qui a une politique très oppressive sur le sujet. Alors, on peut certainement pas appliquer ce qui se passe au Salvador, c'est trop extrême. Mais ça mérite quand même la réflexion, parce qu'on est passé d'un narco-État où je crois que la probabilité de mourir au cours de sa vie liée à la drogue était de 10%, à un État qui aujourd'hui reçoit de nouveau des entreprises sur son territoire. Donc, il y a un juste milieu à trouver, comme sur d'autres sujets où on parle tout le temps, on se compare aux États-Unis. Là, l'Amérique latine est un point de focal qui me paraît intéressant. Et après, évidemment, construire des places de prison. On n'en parle pas tant que ça, mais c'est le cœur du sujet. Actuellement, il y a 60 000 places théoriques en France, mais 80 000 personnes sont en prison, donc ce qui fait un taux d'occupation de à peu près 130%, je crois. Il y a une urgence à construire, même bien au-delà de 80 000 personnes, parce que il faut appliquer la loi, que la loi soit respectée. Quand on condamne quelqu'un à une semaine, un mois, un an ou 10 ans, dans tous les cas, il doit faire sa peine jusqu'au bout.
Même s'il est président de la République ? S'il est ancien président de la République ?
Ça me gêne. J'aime pas trop cette idée d'attaquer l'ancien président, mais s'il a...
C'est
s'il
un justiciable comme un autre.
Mais bien sûr, bien sûr. Après, est-ce qu'il n'y a pas une justice politique derrière tout ça ? Je suis partagé. Il semble que Nicolas Sarkozy soit
parce
coupable.
Que c'est de lui qu'on parle.
Voilà.
Vous l'avez compris.
Est-ce qu'il était nécessaire de mettre autant en avant
cette histoire. Condamner des faits délictueux.
Condamner des faits délictueux, évidemment. Mais concernant Jacques Chirac, ça s'était réglé d'une manière, on va dire, un peu plus élégante, qui avait permis de ne pas humilier la France. Parce que ce qui compte dans cette histoire, c'est que finalement, la France est humiliée et le prix est encore plus grave pour moi.
Donc il vaut mieux être délinquant en col blanc que dans un quartier populaire ?
Quartier prioritaire ? C'est un sophisme, ça. C'est très malhonnête d'attaquer sur ce sujet qui n'a rien à voir avec le sujet.
C'est vous qui avez dit que toute personne condamnée devait purger sa peine. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous.
Et Nicolas Sarkozy lui-même l'avait dit. Hein.
Voilà, on est arrivé à Nicolas Sarkozy alors qu'on est parti
du narcotrafic. Il purge sa peine, que je sache. Il purge sa peine actuellement avec un bracelet.
Oui, tout à fait. Alors, juste une chose, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, le point que soulevait Pierre Lafond sur la création d'un parquet national anti-criminalité organisée. C'est l'article 2 de la proposition de loi. Il a été voté d'ailleurs hier, cet article, par l'Assemblée. Est-ce que ça vous semble une disposition intéressante, ça, Guillaume Agulot ?
Extrêmement intéressante, pour une raison très simple. La création d'un parquet national, ça existe dans l'antiterrorisme, ça existe dans d'autres domaines, etc. Ça permet d'apporter une réponse cohérente et coordonnée partout sur le territoire. Le principal avantage, en plus évidemment de disposer de magistrats qui sont spécialisés sur ces questions-là, ça permet surtout d'avoir une cohérence de la réponse pénale, à la différence des différents parquets territoriaux dont on sait très bien que les procureurs généraux ont plutôt telle ou telle orientation en fonction de considérations diverses et variées qui leur appartiennent. La création d'un parquet national, c'est un élément indispensable, de toute manière, sine qua non, clairement, si on veut que tout ou partie, ne serait-ce même que des parties de cette loi contre le narcotrafic, puisse avoir le moindre effet positif.
Eh bien, pour le coup, vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin, puisqu'il a dit que ce serait la clé de voûte du dispositif que met en place l'État pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous, Thibaut Casal, vous pensez aussi que ça, c'est une bonne disposition ?
Ben oui. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais je l'avais marqué dans mes bons points. Création d'un parquet national spécialisé. mais parce que je pense que oui, là, pour le coup, ça prouve peut-être que oui, il y a une vraie volonté aussi de lutter sur cette question-là. Après, voilà, avoir aussi les moyens qu'on va leur donner.
Encore une fois, la question des moyens,
on en revient là-dessus.
Pour tout texte de loi derrière, il faut voir quels moyens vont être effectivement.
C'est ça. Et peut-être voir aussi. D'une façon peut-être un peu plus précise, on sait que le narcotrafic est très présent dans les quartiers populaires. Peut-être alléger la police de certaines missions qu'elles ont là actuellement, remettre une police de proximité pour que les autres aient peut-être plus de temps pour travailler sur ces questions du narcotrafic, etc. Donc on peut revenir à Nicolas Sarkozy qui l'a enlevé, mais ça.
En passant.
Non mais juste pour dire que voilà, il y a aussi faire en sorte que les policiers fassent leur travail de la meilleure façon possible pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes de la meilleure façon possible. Donc voilà, c'est pour moi, ça me paraît très assez logique, mais juste revenir sur quelque chose qui a été dit. Bon, moi, je pense pas quand même que, bon, même si vous l'avez dit, hein, que la solution c'est de faire comme dans le Salvador, parce que c'est pas en mettant
j'ai pas
des.
Dit ça, j'ai dit qu'il fallait ouvrir une réflexion sur le sujet.
Alors moi, ouvrir une réflexion sur le
fait
que les
décrit deux modèles complètement
trafiquants. Ouais. Alors moi,
le
modèle dans lequel les trafiquants finissent à chaque fois avec une balle dans la tête, c'est pas le modèle, à mon avis, souhaitable dans encore une fois dans une démocratie, dans l'État de droit. Bon, l'État de droit. Si j'ai bien compris que sur les questions notamment du Conseil constitutionnel, c'est, moi je trouve ça assez assez drôle que quelqu'un qui soit d'un parti qui est le parti de la Ve République, de la Constitution de De Gaulle, etc., remette en cause le rôle du Conseil constitutionnel.
De Gaulle voulait-il Conseil constitutionnel là justement absolument pas.
Si aujourd'hui le Conseil constitutionnel permet de respecter la Constitution quand même qui a été menée par le général De Gaulle et par Michel Debré, moi personnellement qui suis pour une 6ème République, je devrais peut-être un peu plus l'attaquer. Et pour le coup, non, je ne pense pas. Je pense que le Conseil constitutionnel fait son travail, et heureusement qu'il fait son travail, pour preuve les lois asile et immigration qui ont été retoquées, et heureusement.
Malheureusement.
Oui, je ne suis pas certain que le général de Gaulle verrait non plus d'un très bon œil le Conseil constitutionnel tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais bon, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, pour revenir à l'examen de cette loi, il continue à l'Assemblée nationale. Il y a un vote qui est prévu le 25 mars. On verra d'ici là ce qui sera passé. Des articles ont été votés, hein, donc je l'ai dit, la création du parquet national anti-criminalité organisée et puis ce nouveau régime carcéral que Guillaume Agulot voit plutôt d'un bon œil et que Thibaut Casal, lui, ne voit pas du tout d'un bon œil. Pause maintenant dans cette émission avant de reprendre nos débats dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info. Éric Dupri.
Nous voilà revenus à l'antenne avec les trois invités de ce numéro, Guillaume Agulot, Thibaut Casal et Pierre Lafond. Nous changeons de registre pour notre second débat qui va être consacré à la manifestation contre le racisme et l'extrême droite annoncée ce samedi 22 mars à l'appel de la France Insoumise et de plus de 200 associations et syndicats, dont la CGT. Elle doit avoir lieu un peu partout en France. Ses organisateurs estimant que la violence de l'extrême droite est impunie dans notre pays, où de nombreux élus, ministres, journalistes multiplieraient, selon eux, les sorties racistes et xénophobes. Que vous inspire l'organisation et l'objet de cette manifestation, et peut-être plus encore, que vous inspire ceux qui appellent à y participer ce samedi? Thibaut Casal, l'homme de gauche que vous êtes, en sera-t-il?
Oui, ce samedi, je serai au départ de la manifestation à Capitole à 11h à Toulouse. Oui, j'y serai parce que oui, je trouve ça important quand même de manifester contre l'extrême droite, contre les violences racistes, contre voilà, hein, tout ce que véhicule cette idéologie politique néfaste pour la République et pour la démocratie. Donc
C'est quoi l'extrême droite exactement?
L'extrême droite. Alors c'est vrai que du coup en ce moment il y a peut-être on a de plus en plus de mal à le qualifier, mais le Rassemblement national c'est l'extrême droite. Le GUD c'est l'extrême droite. Éric Ciotti c'est l'extrême droite. Donc aujourd'hui.
On ne définit pas par l'exemple.
Je le définis par exemple parce qu'au moins comme ça tout le monde le comprend. Mais l'extrême droite c'est cette idéologie raciste qui n'est pas patriote mais nationaliste. Cette idéologie qu'on a connue en France malheureusement en 1940 lorsque les pleins pouvoirs ont été votés au maréchal Pétain. Donc on sait ce que c'est l'extrême droite et on sait ce que c'est l'extrême droite au pouvoir et ça faut pas l'oublier. Sur ce qui est de l'extrême droite monte, on le voit bien, hein, les scores des européennes, des législatives le montrent. Donc oui, l'extrême droite est de plus en plus présente et les violences d'extrême droite sont de plus en plus présentes. Hier, le 19 mars, certes, nous à Toulouse, avec notamment Guillaume, on commémorait les disparus de l'attaque terroriste horrible qu'a subi Toulouse en 2012. Mais
à l'école aux Arrêtons, hein.
Voilà. Oui, mais hier, c'était aussi la mort de Federico Aramburu, le rugbyman argentin qui, un amoureux de la France, de ses valeurs, a été assassiné par l'extrême droite, par des membres du GUD. Le GUD, pour rappeler quand même, c'est une organe de l'extrême droite dont est très proche Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc on voit quand même les violences d'extrême droite se multiplier. Moi, j'ai par exemple adoré le discours du réalisateur Costa Gavras au César de cette année, où il a notamment parlé de l'attaque en plein jour à Paris de groupes nazis qui ont crié « Paris est nazi », qui ont poignardé un militant de la CGT et qui sont venus tabasser des Kurdes. Alors quand même, pour rappeler, en plus, lors d'une séance de cinéma, les Kurdes, qui sont en plus des personnes qui se battent contre le terrorisme sur le terrain au Moyen-Orient, ça faut quand même le rappeler. Quelle a été la réponse de Monsieur Retailleau? Sa réponse a été honteuse. Heureusement que quelqu'un l'a interpellé à l'Assemblée nationale, parce que sinon, au bout de deux jours, il n'y avait toujours aucun mot de sa part pour les victimes, et il n'y a eu aucun mot de sa part pour les victimes durant sa réponse à l'Assemblée nationale. Là encore, ça pose quand même un vrai problème quand des personnes qui sont censées représenter une droite républicaine, vu que c'est le nom de leur groupe à l'Assemblée,
donc l'extrême droite.
Et Bruno Retailleau cède aux idées d'extrême droite bien trop souvent. C'est bien trop souvent. Et après, je vais utiliser pour y répondre quelqu'un de droite, hein, Aurélien Pradier, qui a dit des propos de Monsieur Retailleau qu'il était idéologiquement raciste et qu'il avait une pensée fascisante. Et donc c'est pas moi qui le dis, c'est Aurélien Pradier, et qui est clairement pas un affreux gauchiste.
Et qui en plus est l'autre.
Donc l'autre oui, voilà, là où j'ai grandi, moi aussi. Et donc bon, ça il faut quand même l'avoir à l'esprit. Il faut l'avoir à l'esprit que si on va sur le site du ministère de l'Intérieur, on voit que la majorité des attentats déjoués en 2023-2024, j'ai pas regardé pour les autres années, mais sont des attentats qui devaient être commis par l'extrême droite. Que l'extrême droite a par exemple, et c'est il y a eu des tentatives heureusement avortées d'assassinat envers le président de la République ou envers Jean-Luc Mélenchon, que je ne défendrai pas, hein, mais que faut le dire quand même. Et donc aujourd'hui l'extrême droite elle pense qu'elle peut être impunie, mais aussi parce qu'on la laisse faire. Et quand Bruno Retailleau ne parle que des violences de l'ultra gauche et ne parle pas de violences commises par l'extrême droite, il cède à l'extrême droite, et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, c'est l'extrême droite qui va gagner, parce qu'on préfère toujours l'original à la copie. Donc ça sert à rien de vouloir copier l'extrême droite, à la fin, c'est l'extrême droite, la vraie, qui va passer.
Voilà, bon, l'avis très tranché donc de Thibaut Casal, qui soutient clairement cette manifestation et qui va même y participer. Alors vous, Pierre Lafond, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette manifestation, ce qu'il organise, et puis l'objet qu'il lui donne?
Alors, samedi,
montée du racisme de l'extrême droite en France, il faut faire quelque chose, voilà ce qu'ils nous disent.
Samedi, je n'y serai pas parce que je vais au Rassemblement des jeunes républicains qui a lieu à Épinal, qui va nous prendre le week-end. Mais même si je n'avais pas eu cet événement, je ne serais sûrement pas allé à cette manifestation, parce que j'ai lu la liste des co-signataires, et quand on voit qu'il y a par exemple la famille Traoré, bien connue, Guillaume Meurice, qui a été viré de France Inter pour des propos douteux, ou Béatrice Dade, une actrice célèbre droguée, Anna Mouglalis, une bobo donneuse de leçons. J'ai pas envie de me mêler à ces gens-là. Et là, les termes que j'entends, c'est toujours pareil, fascisme, racisme, nazisme. On est dans le point Godwin permanent, la réduction ad Hitlerum dès qu'il y a une idée. Hitler aimait le jus de fraise, ça veut dire que vous aimez le jus de fraise.
Quand on crie pareil nazi, on crie pareil nazi.
Ce sujet est un non-sens. On parlait de l'état de droit dans la première partie de l'émission. Aujourd'hui en France, le racisme est condamné pénalement. Mais très bien, très très bien. Et appliquons la loi tout simplement. Quelqu'un a des propos racistes, il est condamné. Il prend une amende, il récidive, il va en prison. Et puis voilà, pourquoi manifester pour quelque chose qui est déjà appliqué? On est dans du symbole, LFI aussi derrière, encore une fois, qui met son bazar, qui a un comportement absolument totalitaire qui effraie les gens. Sujet très intéressant d'ailleurs, cette manière de tenter de communautariser l'échiquier politique. Je me mets aujourd'hui à la place d'un citoyen français de confession juive. Comment il pourrait voter pour un parti de gauche actuellement? Comment il peut se sentir représenté, avoir un espoir? Ces partis ne peuvent que le terroriser. Et je comprends la crainte infinie que nos compatriotes peuvent avoir. Aujourd'hui, le clivage, il n'est pas extrémisme ou pas. Il est sur un mot, c'est le parti de gouvernement ou pas. on a des, on en a parlé il y a 10 minutes, on a des partis, presque tous, qui arrivent à se mettre d'accord sur un projet de loi qui vaut ce qu'il vaut, et on a un parti qui s'oppose en permanence, qui n'apporte aucune solution. J'espère que Génération se désolidarise et reste dans cet arc intelligent. Voilà, donc on a des partis de gouvernement responsables qui aspirent à rassembler en majorité le peuple français, et de l'autre on a un parti qui finalement espère peut-être se retrouver au second tour face à Marine Le Pen et croit qu'il va gagner contre Marine Le Pen, mais c'est impossible. Une telle radicalité rappelle justement le FN des années 80 qui se cantonnait à 15%, parce que ils nourrissent un électorat lequel il semblerait que ce soit que le marché visé soit l'électorat musulman, et c'est profondément malsain de viser une communauté en particulier comme ça pour la démocratie.
Alors ça, il faudra peut-être qu'on en parle effectivement de ce point-là. Guillaume Agulot, quand vous voyez cette manifestation donc contre le racisme et l'extrême droite qui s'organise ce samedi à l'appel notamment de la France Insoumise et de 200 associations et syndicats dont la CGT, qu'est-ce que ça vous inspire?
Déjà, on va être très clair, hein. Je vais aussi répondre à la même question que vous avez posée à mes deux autres invités. Moi, non, je n'y serai pas. Pas du tout, parce que je ne prends pas la mesure, effectivement, de la menace lourde, forte, majeure, essentielle, structurante et en augmentation. Je rejoins exactement Thibaut Casals là-dessus. La menace que représente l'extrême droite dans notre pays, qui est une menace en augmentation. Je n'y serai pas parce que vous avez dit la France Insoumise et 200 associations. En fait, tout ce qu'on retient, c'est la France Insoumise, parce que ça a été fait pour, ça a été calculé pour, ça a été organisé pour. Et je ne peux pas manifester contre des idées d'extrême droite qui sont le fondement même de ce que... La lutte contre les idées d'extrême droite, c'est le fondement même de tout ce que j'ai été, de tout ce que je suis, en tant que citoyen, en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public, en tant que militant, en tant que... de tout ce que l'on veut, de tout mon parcours, etc.
De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait grand monde en France aujourd'hui qui dirait qu'il est pour le racisme et pour l'extrême droite.
Je ne suis pas si sûr. Je pense en tout cas que...
Il ne présenterait pas les choses comme ça, en tout cas.
Présentait pas comme ça, on est d'accord, mais par contre, cette parole de plus en plus décomplexée, quand même, on la sent de plus en plus monter. En tout cas, très clairement.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on va pas à la manifestation qu'on est pour le racisme,
voilà,
et l'extrême droite.
Voilà. Par contre, je ne peux pas aller à la manifestation avec des individus, avec un parti politique et des individus, le LFI, hein, qui prétend lutter contre l'extrême droite en reproduisant en appliquant exactement les mêmes méthodes. On ne lutte pas contre l'extrême droite avec les méthodes de l'extrême droite. Ça, c'est strictement impossible. Et tant qu'il n'y aura pas, de la part de l'arc républicain, très clairement, une prise de position claire, nette, totale, absolue, définitive, intégrale, de rupture avec les extrêmes, LFI et la galaxie RN et alliés, dont Éric Ciotti. Tant qu'il n'y aura pas le principe de cette rupture, à une époque, il me semble qu'un leader naturel et important de la droite avait parlé de cordon sanitaire. Il s'appelait Jacques Chirac, il est devenu président de la République. Je pense que Jacques Chirac, aujourd'hui, s'il voyait où en sont ceux qui se proclament ses héritiers et qui sont en permanence en train de le citer en exemple et en modèle, s'il voyait à quel point ces héritiers-là, autoproclamés en tout cas, rompent toutes les amarres les unes après les autres, qui les maintiennent dans un arc républicain, pour s'approcher de plus en plus, et certains, ils ont définitivement largué les amarres, comme Éric Ciotti, lui, il l'a dit publiquement, ouvertement, officiellement,
c'est officiel, ouais.
C'est clair et net, enfin, je veux dire, là, qui en doute, qui en doute, bon, à part ceux de mauvaise foi, qui en doute, je crois que c'est clair et net, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que nous avons dans ce pays, le problème, c'est les extrêmes, et c'est la violence des extrêmes. Parce que penser qu'effectivement, il n'y a pas de violence ou qu'il n'y aurait d'une violence que d'un seul côté, c'est faire preuve d'un aveuglement absolu. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente, et cette violence sur le champ politique, elle est portée par les deux extrêmes, parce qu'ils y ont un intérêt commun. Ils y ont un intérêt commun. Je suis convaincu que, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, je suis convaincu que la bordélisation ne vient pas que de LFI. À l'Assemblée nationale, oui. Parce que le RN, il s'appelait FN, mais c'est la même, hein, pareil, c'est pas la couche de Ripollin qui a changé quoi que ce soit, parce que le RN l'a tenté, cette stratégie. Ça a permis de les ancrer à un moment donné, et puis aujourd'hui, ils se donnent un système de respectabilité. Pourquoi ? Parce que d'autres font le boulot à leur place. Vous avez un dessin de URPS dans le Canard enchaîné de cette semaine, la livraison date d'hier, qui est assez extraordinaire. Marine Le Pen qui dit à Jordan Bardella, ça y est, maintenant qu'on a fait un voyage en Israël, non mais l'extrême droite française qui va en Israël, je veux dire, même moi, il faut que je reste assis pour vous dire ça. Et Marine Le Pen qui dit à Jordan Bardella, bon mais maintenant il nous reste encore une dernière étape pour être clair sur tout, et il ne faut plus qu'organiser qu'un pèlerinage à la Mecque. Voilà, on en est là, c'est-à-dire que eux ils sont dans « surtout je fais rien » parce que les autres font le boulot, de toute façon pour moi. Et donc on est sur un vrai sujet, un vrai danger, une véritable menace. Mais on ne peut pas combattre cette menace avec les méthodes de l'extrême droite. Et aujourd'hui, LFI, j'ai pas dit dans le discours, j'ai dit dans les méthodes. Aujourd'hui, LFI est clairement dans des méthodes d'extrême droite. C'est inacceptable. Et tant qu'il y aura des partis politiques, fût-ce génération, mais il y en a d'autres, qui continueront par calcul électoral ou par choix stratégique de positionnement de bloc pour peser, etc., etc., d'accorder du crédit à cette structure qui a définitivement rompu avec tout ce que la République peut compter de valeurs et de principes, c'est fini. C'est impossible de continuer à échanger, à discuter. Bon, apparemment, certains partis ne l'ont toujours pas compris, continuent d'accepter de se faire traiter comme des paillassons, continuent de se... Vous avez vu Jean-Luc Mélenchon face à un journaliste, votre confrère, oui, dimanche dernier sur France 3. Mais oui, où est-on?
Oui, oui.
Mais où est-on? Mais si ça, c'est pas de la méthode d'extrême droite, qu'est-ce que c'est? L'intimidation, la violence verbale, l'accusation, l'inversion accusatoire, etc. C'est tout ce que l'extrême droite a mis en œuvre et continue de mettre en œuvre. Donc, hurler avec les loups, quand soi-même on a pris des méthodes de loups, des uniformes de loups et des bruits de bottes de pas de loups, quelle crédibilité peut-on avoir? Donc, je continuerai à militer et à m'engager sans la moindre complaisance contre l'extrême droite, mais ça ne sera certainement pas, aux côtés de près ou de loin, aux côtés de LFI.
Thibaut Gazan, il faut que vous répondiez un peu à beaucoup, question beaucoup, qu'a soulevé Guillaume.
LFI plus jamais, plus jamais d'alliance.
Beaucoup de choses. Non, je ne dis pas LFI plus jamais, parce que je préfère lutter avec LFI contre l'extrême droite que je pense qu'LFI représente quelque chose. Après, par contre... lutter avec eux, ça veut pas dire amène à tout. Ça veut pas dire amène à tout.
Ils utilisent les méthodes de l'extrême droite.
Alors,
ou
si
vous récusez complètement.
Si,
ça.
Non, alors, il y a des méthodes. Moi, clairement, c'est clair et net que c'est pas les nôtres. Et on le voit bien, que ce soit à l'Assemblée. Et je suis d'accord d'ailleurs sur quelque chose, c'est que malheureusement, et il faudrait peut-être qu'ils le comprennent, c'est que ce qu'ils font nous dessert à gauche et ne fait que faire monter Marine Le Pen. Et que même si le but, et parce que je pense que oui, le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'affronter Marine Le Pen au second tour, mais il se fera laminer par Marine Le Pen s'il va au second tour. Donc, si le but, c'est d'arriver au second tour face à Marine Le Pen et de gagner, mais il faut totalement changer de stratégie. Donc non, clairement. Je pense que la question arrive sur les méthodes d'extrême droite, sur la question du visuel d'LFI.
Oui, Cyril Hanouna, bon, voilà. Tout le monde sait de quoi on parle. Hein.
Voilà, bon, ben... De toute façon, à gauche, on l'a tous condamné.
Ouais, quand on les écoute, c'est arrivé par hasard.
Bon, voilà,
c'est
ça, je peux pas. Très honnêtement, j'ai du mal. J'ai vraiment, vraiment du mal à le croire. Donc, ce poste n'aurait jamais dû être diffusé. Que même ils aient pensé à le faire, c'est quand même assez hallucinant. Parce que même si c'est l'intelligence artificielle, lorsqu'on l'utilise, on la guide. Elle crée pas quelque chose sorti de nulle part. Et puis après, faut le valider. Oui, non, mais c'est ça. Après, faut le valider. Et là aussi, bon, la façon avec laquelle Mélenchon répond aux journalistes, vu que vous en avez parlé, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, il ferait du bien à tout le monde, mais surtout à la gauche, de temps en temps, en étant peut-être un peu moins présent, en partant définitivement. Oui,
on est d'accord.
Moi, sur ça, je serais clairement d'accord. Mais de toute façon, je l'ai jamais caché. Mais personnellement, je pense que la gauche s'en sortirait très bien si Jean-Luc Mélenchon n'était plus là. Mais c'est pas le seul. Hein. Je pense qu'aussi de l'autre côté à gauche, François Hollande aujourd'hui n'arrange rien sur la situation de l'union de la gauche au sein de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il faut aussi que des personnes prennent conscience qu'il faut laisser la main à d'autres et qu'ils ont pu représenter quelque chose à une certaine époque. Et c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon a représenté quelque chose pour des millions de Français lors de plusieurs élections. Mais maintenant, voilà, c'est fini. Et il faut, faut passer la main à ce niveau-là.
On a dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, moralité, la prochaine fois, vous voterez pour Jean-Luc Mélenchon.
Mais je suis à génération. Donc, en 2017, là, pour la première fois que je votais, j'ai voté Benoît Hamon. Donc, me dire que j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, bien que beaucoup à gauche auraient voulu que je vote Jean-Luc Mélenchon, bah non, j'ai voté Benoît Hamon. Donc, génération était avec Yannick Jadot la dernière fois. Donc, de dire voter Jean-Luc Mélenchon, ben non, désolé. Donc voilà, encore une fois. Si on parle, parce que qu'on commence à parler, on commence à parler. moi, je pense pas qu'il sera au second tour en 2027, parce que si la gauche est désunie, la gauche ne peut pas être unie derrière Mélenchon. Donc, si la gauche est désunie, elle sera pas présente au second tour de l'élection présidentielle. Donc là encore, le choix personnel nous amène vers le mur, et il le prend, mais d'autres le prennent aussi à gauche. Et ça, faut quand même pas le mettre sous le tapis. Ensuite, sur les questions, parce que voilà, les questions. D'antisémitisme sur ces procès-là. Moi, quand même, j'ai aussi été choqué. Et de la même façon que, et je l'avais dit d'ailleurs à ce micro, hein, que j'étais choqué et que je trouvais ça complètement dégueulasse, la parole de Mélenchon sur le fait que l'antisémitisme était résiduel en France.
Je confirme que vous l'aviez dit.
Et de la même façon, quand Bruno Retailleau parle d'un antisémitisme résiduel à l'extrême droite, mais alors que des études très claires le montrent, encore une étude de l'IFOP pour le CRIF et la Fondation Jean Jaurès montre bien que certes il existe de l'antisémitisme à l'extrême gauche, mais il n'est, et je cite, sans comparaison avec celui observé à l'extrême droite et chez les proches du RN. Et aussi il est dit à ce moment-là que les sympathisants de gauche sont ceux qui luttent le plus contre l'antisémitisme. Et du coup, moi, la question, vu qu'on me l'avait posée aussi à l'époque sur est-ce que je condamne les termes de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous condamnez les termes de Monsieur Retailleau?
Absolument pas. On sait très bien qu'à la présidentielle, 80% des Français juifs ont voté pour Éric Zemmour, que vous définissez comme d'extrême droite. Donc à ce moment-là, les Juifs sont antisémites. Les Juifs sont antisémites, ça en marche sur la tête. Aujourd'hui, on est dans l'inversion des valeurs, et j'aimerais citer mes amis de l'UNI qui ont voulu aller tracter au Mira il y a quelques semaines pour les élections et qui se sont fait tabasser. L'un a fini aux urgences, a eu des points de suture, par des groupuscules d'extrême gauche et qui organisent eux-mêmes des réunions non mixtes qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est d'une absurdité totale. Le racisme, c'est le racisme. C'est pas tel groupe est hégémonique, donc il ne sera jamais attaqué. C'est absurde, même intellectuellement.
Juste deux secondes, si vous parlez de l'UNI, excusez-moi de vous interrompre, mais vous condamnez par exemple le fait que l'UNI ait tabassé le responsable de l'UNEF Toulouse à l'UIT1 la semaine dernière?
Actuellement, j'ai entendu parler de cette histoire. Ça se jouera peut-être devant les tribunaux. Je pense, même je suis absolument certain, que ce n'est pas un membre de l'UNI qui a tabassé ce monsieur, j'en suis absolument certain.
À notre sujet, parce que là, on part sur des petites guéguerres là, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Il y a une chose quand même qui me frappe dans cette histoire, c'est que c'est une manifestation contre le racisme et l'extrême droite, mais ce n'est pas une manifestation contre l'antisémitisme. Alors, est-ce que c'est anecdotique ce que je relève là, ou est-ce que c'est un oubli quand même fâcheux qui devrait nous interroger, Guillaume Agulot?
Non, c'est absolument pas anecdotique, c'est ni non plus un oubli fâcheux, c'est un choix stratégique parfaitement assumé, hein, vous l'avez dit, la manif organisée par LFI et une cohorte plus ou moins mais clairement par LFI. LFI est aujourd'hui clairement, mais on l'a dit,
parce qu'à une époque, quand il y avait des manifestations, bien c'était sûr. Contre le racisme et l'antisémitisme.
Mais bien sûr,
systématiquement.
Mais comment voulez-vous que LFI prenne position, sachant que Jean-Luc Mélenchon vient de le dire à l'instant au micro, nous a expliqué que l'antisémitisme en France était résiduel et qu'il n'existait pas, juste avant d'ailleurs qu'une synagogue se fasse attaquer, se fasse brûler, juste à temps que... Je rappelle juste à ces propos-là que ce sont les mêmes groupuscules qui vont, parmi ces groupuscules qui vont défiler à samedi prochain, à l'appel, puisqu'ils sont dedans, qui ont prétendu interdire à un collectif de femmes, s'appelle Nous Vivrons, qui est là pour porter la parole et la mémoire des femmes israéliennes qui ont été violées, qui ont été assassinées, qui ont été brûlées pour certaines, qui ont été kidnappées, y compris avec leurs enfants, par le Hamas, pour partir en otage dans les tunnels, etc. Ce collectif, Nous Vivrons, ce sont des femmes qui veulent porter cette mémoire-là. Eh bien, ceux qui vont manifester samedi ici font partie, parmi ces groupes-là qui vont manifester samedi, ce sont ceux qui ont prétendu interdire à ces femmes juives de manifester. Et vous avez dit aujourd'hui que la gauche ne s'engage pas, c'est pas vrai, parce que pour être à leur côté, à Paris, cloîtré, prostré, bloqué dans une rue pendant 5 heures, etc., soi-disant pour leur protection, puisqu'on leur interdit de manifester, le Printemps républicain, nous étions là, avec la LICRA. Ce sont les deux structures, Printemps républicain et LICRA, que l'on peut clairement dire de gauche universaliste et laïque, de gauche, oui, mais universaliste et laïque. Et c'est peut-être deux mots qui manquent définitivement à LFI et à un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre des collectifs et des groupes qui décident d'appeler à manifester ce samedi. Donc très clairement, s'il n'y a pas le mot d'antisémitisme dans l'appel, ça n'est pas un oubli, c'est un choix. Pas un oubli, un choix de ne plus parler d'antisémitisme, parce que si vous n'en parlez pas, ça devient plus facile pour libérer la parole antisémite.
20 secondes, Thibaut Casal, ça vous semble un oubli quand même qu'il n'y ait pas marqué contre l'antisémitisme en plus que le racisme et l'extrême droite?
Non, mais c'est un oubli important. Alors, c'est vrai que il y a encore quelques années, quand j'étais moins militant, si je parlais de racisme, je mettais forcément l'antisémitisme dedans. Bon, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas forcément, donc le préciser aurait été bien. C'est d'ailleurs, juste pour le rappeler, le 25 juin 2024, ce que le Nouveau Front Populaire à Toulouse, mais aussi nationalement, un des premiers communiqués du Nouveau Front Populaire a été contre le racisme et sous toutes ses formes et contre l'antisémitisme.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Bravo à Pierre Lafond pour cette première. J'espère que vous reviendrez dans cette émission. Merci à Coraline Camebrac, à la régie technique. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à tous ceux qui nous ont encore écoutés aujourd'hui. À la semaine prochaine.